m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Le Parlement vient de prolonger pour la 6e fois depuis mars l'état d'urgence sanitaire en RDC. Les députés contre la prolongation ont dénoncé le maintien d'une mesure pour 15 jours encore qui risque d'asphyxier le pays et l'économie en l'absence d'un plan gouvernemental de sortie des crises. À la fin du débat, le président de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda Lyoko, a plaidé pour un plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire auprès du gouvernement, affirmant que les députés ne souhaitaient pas voter la prolongation sans fin jusqu'au mois de septembre. Comment réagissez-vous face à cette 6e prolongation et que vous inspire le plaidoyer de la présidence de l'Assemblée? Participez en direct au 081 890 63 30 ou bien au 081 890 49 69. Vous pouvez également commenter ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien sur notre page Facebook. Vous êtes près de 7162 à avoir été touchés par ces sujets. 1500 parmi vous ont été réagis et 132 l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Polydor Basunga sur la mise en onde de cette émission et Pierrot et la Magie concourent à sa réalisation. Et J.R. Lungembo, Luabung Anji est à la présentation et à la coordination de cette émission. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Donatien Okoko, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R. et bonjour à tous les amis de Radio Capi.
Nous rappelons que vous êtes analyste politique. La question de la prolongation de l'état d'urgence, au fait, suscite des débats auprès de la population d'abord. Et d'ailleurs, nous avons assisté à ces grands débats houleux au niveau de l'Assemblée nationale, et qui a donné lieu d'ailleurs à ces plaidoyers de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda Lyoko, pour ne pas les citer, qui a plaidé pour un plan de sortie de l'urgence, de l'état d'urgence sanitaire auprès du gouvernement, affirmant que les députés ne souhaiteraient pas voter la prolongation sans fin jusqu'au mois de septembre. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, J.R. J'avais suivi ça comme tout le monde. Mais je me suis posé beaucoup de questions, J.R. Parce que lorsque les députés disent qu'ils ne peuvent plus continuer à accorder la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, je trouve que peut-être qu'ils ont agi par masse et non pas les députés qui ont réfléchi pour prendre une telle position. J.R., lorsque le président avait pris la mesure de déconfiner la République démocratique du Congo, à Kinshasa, donc la maladie, la pandémie ne s'était qu'à Kinshasa et on avait moins de 10 cas. Aujourd'hui, avec le confinement de la République démocratique du Congo, on est passé de moins de 10 cas à plus de 7000 cas. Et vous dire que avec l'état d'urgence, si l'état d'urgence n'était pas accordé ou n'était pas pris, aujourd'hui on parlerait peut-être à des millions de gens contaminés. Parce que vous allez vous rappeler que jusqu'à aujourd'hui, certaines provinces ne sont pas encore touchées grâce à l'état d'urgence. Parce que lorsqu'on aura dit qu'on n'accorde plus l'état d'urgence, c'est que les restrictions des libertés que les gens sont condamnés aujourd'hui ne vont plus exister. Lorsqu'on va dire on n'accorde plus l'état d'urgence, c'est que le port de masque, par exemple, ne va plus être obligatoire. Parce que c'est grâce à l'état d'urgence qu'on impose ces restrictions aux citoyens. On va, alors, à ce moment-là, on ne va plus interdire le mouvement des citoyens. Si je vais me rendre, par exemple, chez moi au Sankuru, je vais m'y rendre, on ne va plus m'interdire. Donc, vous voyez que beaucoup de les restrictions que nous observons aujourd'hui vont disparaître avec la non-prorogation de l'état d'urgence. Mais est-ce que le fait que le gouvernement maintient la prorogation de cet état d'urgence, est-ce que les députés ne voient pas ça, n'analysent pas ça? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'on mette fin à l'épidémie ou qu'on vive avec cela, avec toutes les conséquences que cela pourrait en découdre. Donc moi je crois que les députés n'ont pas bien réfléchi, en disant même que nous n'allons plus prolonger. S'ils veulent mettre fin aujourd'hui, la Constitution leur donne le droit, parce que l'article 144, dernier alinéa, disent que ils peuvent, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent prendre une loi pour mettre fin à l'état d'urgence. Pourquoi doivent-ils dire non, nous n'allons plus prolonger, mais qui les empêche de prendre une loi pour dire fin à l'état d'urgence? Ils peuvent prendre cette loi-là et ils seront tenus pour responsables de tout ce qui pourrait advenir.
Oui, maître Donatien, mais il faut quand même que l'opinion soit fixée entre le déconfinement et l'état d'urgence, qu'on puisse quand même faire la différence entre ces deux concepts.
Bon, il y a ceci. État d'urgence, c'est pour permettre à l'exécutif de restreindre certaines libertés pour permettre à ce que le déconfinement réussisse. Le déconfinement, d'abord, c'est une mesure de l'état d'urgence. Ça veut dire quoi? On vous interdit le mouvement. Par exemple, on dit qu'il n'y a pas de gens qui quittent Kinshasa pour aller à l'intérieur, pour revenir. Donc, dans une situation normale où il n'y a pas d'état d'urgence, le gouvernement n'a pas ce pouvoir-là d'interdire le mouvement des citoyens. Parce que ce sont des droits reconnus par la Constitution aux citoyens, les droits d'aller et de venir. Mais grâce à l'état d'urgence, on a dit, parce que nous sommes dans un état d'urgence, nous restreignons certaines libertés. On interdit aux gens de déplacer. On vous impose de porter des masques. Mais si on enlève ou si on supprime ou on suspend l'état d'urgence, c'est qu'on ne va plus nous imposer de porter le masque.
Mais 15 jours de plus, est-ce que ça ne risque pas d'asphyxier le pays et l'économie à l'absence d'un plan gouvernemental, comme l'ont dit certains députés?
Nous comprenons, JR, nous comprenons que la situation est compliquée. Mais est-ce que vous n'entendez pas dans certains pays qui avaient déconfiné, déconfiné et reconfiné? Vous ne suivez pas ça?
Madagascar, Algérie,
la situation n'est pas aussi simple qu'on le croit. Ça demande des études, donc des analyses approfondies pour comprendre ce qu'on pourra faire. Mais ce n'est pas à faire pression sur le gouvernement. Les députés peuvent se réunir et chercher à étudier quelle est la voie de sortie qu'ils peuvent aussi proposer à l'exécutif. Hein? Donc, c'est aussi ça. Ils ne doivent pas dire non, le gouvernement doit faire. Non, ils peuvent aussi proposer au gouvernement et ensemble, on peut réfléchir pour trouver.
Oui, parce que si nous restons dans la logique que c'est les. Si nous restons dans la logique que c'est le chef de l'État qui sollicite la prorogation de l'état d'urgence, est-ce que ça revient au chef de l'État de proposer les plans de sortie par son gouvernement, par les biais de son gouvernement?
C'est ça que j'ai dit. L'état d'urgence est dicté. Ce n'est pas une situation qui est voulue par le chef de l'État. Le chef de l'État est obligé par rapport à la situation de l'épidémie, de la pandémie sur le terrain. Lorsque la pandémie là aura pris fin, le chef de l'État ne va pas se contenter dans l'état d'urgence. C'est pourquoi moi je dis, oui, comme autorité constitutionnellement reconnue pour décréter, pour proclamer l'état d'urgence, c'est comme ça que le chef de l'État a proclamé. Mais pour chercher la solution à un problème qui concerne tous les Congolais, cela n'est pas seulement l'apanage du chef de l'État. Tout Congolais qui pourra trouver une voie de sortie pourra faire cette proposition-là au gouvernement et au chef de l'État pour dire, écoutez, au lieu que nous continuions avec l'état d'urgence, voici ma proposition pour que nous mettions fin à cet état d'urgence et comment nous pouvons relancer pour que l'économie se retrouve et pour que les gens étudient ainsi de suite. Donc ce n'est pas un problème tout simplement du président de la République ou du gouvernement. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Si vous organisez cette émission aujourd'hui, c'est parce que ça vous touche aussi. Si vous n'étiez pas touché par ce qui se passe, vous n'auriez pas organisé cette émission. Et voilà, donc c'est un problème qui concerne que tous les Congolais réfléchissent pour trouver une voie de sortie.
Oui. Alors, est-ce que on peut proposer un plan de déconfinement tout en étant dans un état d'urgence?
Je vous ai dit que l'état d'urgence c'est qui organise le confinement. Mais le déconfinement, c'est une situation de liberté. Donc on vous dit non, vous pouvez vous promener comme vous voulez. Donc là, en principe, on n'est plus dans l'état d'urgence.
Est-ce que c'est possible?
Ça vient pour restreindre les libertés. Le confinement là, on vous dit vous ne sortez pas. Donc si on enlève l'état d'urgence, le président n'aura pas le pouvoir de confiner les gens.
Ok. Est-ce qu'en ce moment, le législateur peut penser à proposer des actes réglementaires par rapport à cette situation?
Non, le législateur n'a pas des actes, le législateur ne prend pas des actes réglementaires, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. Si les députés ont des propositions à faire, ils n'ont qu'à faire à l'exécutif, mais pas à leur niveau de prendre des actes. Ils n'ont pas d'actes réglementaires à prendre. Ce sont les députés, c'est le gouvernant et le président qui ont le pouvoir de prendre des actes réglementaires. Ce n'est pas aux députés.
Voilà. Donc c'est ce que a dit d'ailleurs un auditeur qui nous a écrit en disant qu'en ce moment, c'est vrai qu'on sait que certaines mesures ont été vraiment à l'avantage de la population. Parce que nous devons vivre avec la maladie, il faut proposer, il faut prendre des actes réglementaires, notamment sur les comment enterrer nos morts, et aussi comment doit fonctionner l'exercice informel dans notre pays, notamment des bistrots, des bars et tant d'autres, pour permettre à ce que les gens commencent déjà à vivre avec et prennent des décisions pour vivre avec cette maladie.
Oui, c'est une bonne chose, Gérard. Quand je dis les actes réglementaires, par exemple, le gouverneur de la ville peut prendre un arrêté urbain pour dire, écoutez, voici comment le bistrot va fonctionner. Vous allez ouvrir à 9h et vous allez fermer, par exemple, à 18h. Prenez des dispositions pour qu'il y ait une distanciation entre vos différents clients, que les chaises ne soient pas placées à côté des uns sur les autres, qu'on garde de la distanciation. Ça, c'est un acte réglementaire. Mais qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi, JR? Quand vous observez, nous, Congolais, nous n'arrivons pas à très bien expliquer ces choses. J'ai été dernièrement dans une morgue à l'hôpital des Chinois. Mais vous voyez, les gens portent des masques, mais les masques sous les manteaux. Et ils se parlent comme ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi on a porté ces masques-là? Parce que vous ne les mettez pas, vous ne couvrez pas la bouche, mais vous parlez à 0 mètre, mais vous avez chacun son masque. Donc, ça, c'est aussi un problème. C'est pourquoi l'état d'urgence vient pour renforcer certaines choses. Mais vivre avec la maladie, et avec la pandémie, c'est bien. Mais la difficulté, c'est quoi? À la différence, c'est parce que j'ai entendu certaines personnes dire non, il y a la malaria qui est là, il y a le sida qui est là, il y a un consort. Il faut faire attention entre des maladies dont on a déjà trouvé des solutions. La malaria a des produits. Que si on vous détecte que vous avez la malaria, vous prenez ce produit-là, la malaria est partie. Mais ici, c'est une pandémie, une maladie dont on n'a pas encore trouvé un médicament. Et donc, vous comprenez que tout dépend. Même quand les gens qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, ils ne sont pas soignés comme ils se doivent, ils sont soignés par rapport aux symptômes qu'ils présentent. Vous faites la fièvre, on vous donne un antiparisien. Vous faites vous avez la rhume, on vous donne l'anti-rhume. Donc on ne soigne que les symptômes, mais on ne soigne pas la maladie. Donc c'est plus dangereux que les maladies qui sont avec nous, mais dont on a déjà le produit. Donc c'est ça le risque.
Mais Maître Coco, à l'absence d'un acte réglementaire aux côtés de prolongations successives de l'état d'urgence, ben, la population elle-même se prend en charge. C'est comme vous l'avez dit, dans les lieux de deuil, les gens ne respectent pas les gestes barrières. Quand vous allez même, comme l'a dit d'ailleurs un des députés lors du débat sur la sixième fois, pour la prolongation pour la sixième fois de cet état d'urgence, que quand vous allez par exemple à Willy, il y a maintenant des bistrots secrets, et quand vous allez, et même dans des quartiers, il y a des lieux mortuaires qui sont organisés en secret, mais finalement, nous connaîtrons dans les jours à venir, pire que ce que nous avons connu avant, peut-être le pic de cette maladie.
Bon, mais c'est ça qui est dangereux, oui, et irresponsable, Gérard. Imaginez, avec des interdictions, le comportement des citoyens. Mais lorsque vous enlevez les interdictions, ça va être pire qu'avant. Donc, moi, je ne sais pas comment les Congolais... Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Peut-être chercher à éduquer les Congolais à comprendre que nous sommes dans une situation anormale. Peut-être qu'avec la communication, ça peut aller. Mais sinon, moi, je parie fort que si aujourd'hui, on met fin à l'état d'urgence et que toutes les libertés sont permises, ça va être pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Et en ce moment-là, même les quelques centres de santé qui prennent les gens en charge seront dépassés.
Alors, on va poursuivre cette émission avec les auditeurs qui nous ont rejoints. On va ouvrir les standards pour les accueillir. Nous rappelons à ceux qui veulent participer à ces débats, ils peuvent nous rejoindre donc sur notre page Facebook ou également sur pa@radiocapi.net.
Radio Capi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Capi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h, en rediffusion de 20h à 22h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h, en rediffusion de 22h à 23h, heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15. Jusqu'à 20h, en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30, heure de Kinshasa. Radio Capi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Jules, vous êtes à Bukavu, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. C'est Magdalena Jules, activiste du mouvement Soutien Rien Sans le Peuple.
Quelle est votre contribution?
Moi, je pense que pour cet acte de l'état d'urgence, donc de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, moi c'est un acte qui est salutaire pour moi. D'autant plus que la façon dont nous sommes dirigés dans notre pays, je pense que notre gouvernement ne sera pas à mesure de lever cet état d'urgence une fois qu'on lève cet état d'urgence et que les cas reprennent encore. Donc la sommité dans les jours suivants, c'est nous, la population,
qui en paiera les frais.
Oui, c'est ça le problème. Et donc, moi j'aurais proposé seulement à nos élus, parce que c'est nous qui leur avons voté, si on veut léser vraiment l'état d'urgence sanitaire, on aurait dit à la population ou on aurait proposé au gouvernement congolais que non, vous voulez lever l'état d'urgence sanitaire. Nous voulons que vous leviez l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, voici la procédure. Donc, faire des campagnes de sensibilisation à la population afin que la population sache comment vivre avec cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que nous allons décontinuer notre pays, nous devons jeter donc une petite aide aux pays qui ont procédé à décontinuer leur pays. Maintenant, aujourd'hui, où sont-ils?
Ils sont encore dans les réconfinements, oui. Parce que nous avons cité même avec notre invité les cas de l'Algérie, et le Madagascar d'ailleurs qui avait fait la promotion de produits que lui il a estimé être le produit efficace pour soigner ou encore prendre en charge les malades testés positifs de Covid-19. Mais malheureusement, le pays aujourd'hui est dans un état de reconfinement et c'est comme le cas en Algérie ou encore ailleurs en Égypte et dans d'autres pays. Alors d'aucuns saluent la prolongation pour la énième fois de l'état d'urgence pour éviter que nous puissions, nous, dans notre pays, d'atteindre les pics. Merci beaucoup, Jules, d'avoir appelé. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR. Je suis très ravi de vous retrouver encore une fois.
Alors, vous avez dit que... Vous avez écrit sur notre page Facebook en disant que l'état d'urgence peut se faire autant de fois, malgré que les députés ont dit qu'ils ne peuvent pas aller au-delà du mois de septembre.
Oui, justement. Vous savez, monsieur JR, moi je suis ici à Lubumbashi. Il y a une chose que j'observe. Tellement la pandémie est tellement politisée. Et en regardant la population, ils n'y croient même pas à l'existence de cette maladie. Alors moi je trouve que c'est par manque de stratégie, peut-être au niveau du gouvernement, pour mettre fin et faire une sortie de crise. Il y a le moyen, peut-être financier, qui manque. Parce que c'est ce moyen financier qui va aider l'équipe de riposte ou bien mener la campagne là, de sensibilisation au niveau de la population qui est moins informée. C'est pourquoi je dis, par exemple, à ce qui concerne les travailleurs, il y a certains travailleurs, avec cette crise ici, il y a certains travailleurs qui sont en congé technique. Il y en a d'autres qui ont même perdu leur travail. Mais avec tout ça, au niveau du Parlement, quelle est la stratégie qu'ils ont prise pour permettre à ce que ces travailleurs retrouvent leurs possibilités de jouissance, de salaire, ainsi de suite. Vous voyez que même si on prolongeait plus d'une fois, il n'y aura pas une bonne solution, à moins que si le gouvernement s'y mettait avec les moyens, ce sont les moyens financiers.
Donc, si je comprends bien, vous plaidez également pour les mesures d'accompagnement. En d'autres termes, c'est ce que les autres appellent des actes réglementaires.
Justement, parce que s'il n'y a pas ça, ça sera impossible. La population va comprendre comment pour se protéger, va être sensibilisée comment est-ce qu'il va s'y prendre à cette situation de Covid. Ça sera tellement très compliqué. Alors, si le gouvernement mettait, il y a beaucoup de stratégies que le gouvernement peut mettre, mais tellement que c'est tellement politisé, alors la population n'a plus confiance.
Mais à quel niveau avez-vous remarqué cette politisation dans la gestion de cette maladie, de cette pandémie en RDC?
J'ai dit par exemple, si c'est par exemple il y a des cas, il y a des gens qui sont frappés de cette maladie, ils meurent, tout ça. Mais jusque là, nous recevons des informations. On nous dit souvent, bon, il y a tel nombre de cas. Telle augmentation, il y a des cas pareils. Mais la population ne croit pas ça parce qu'ils ne voient même pas les images. Ils ne voient même pas est-ce que c'est réel, est-ce que c'est une utopie. Voyager, c'est un peu compliqué. Alors quand on dit par exemple, on en prolonge, ça fatigue parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre du jour au jour. C'est compliqué.
Oui.
Alors si le gouvernement prend une stratégie financière, ils savent qu'ils doivent faire, par exemple, pour...
Alors, si vous étiez demandé, de proposer un plan de crise,
oui.
Comment allez-vous le présenter?
Moi, personnellement, bon, moi, je peux dire ceci. Si, supposons, ils disent, par exemple, voilà, avec le rapport de l'équipe des riposte, ils vont donner la courbe, comment ça évolue. Les cas de contamination commencent à évoluer dans les provinces. Il y a certaines provinces qui ne sont pas contaminées. Mais maintenant, ils doivent, par exemple, dire, bon, voilà, il y a telle structure qui doit mettre en place les désinfectants, les cache-nez pour protéger, pour donner à la population gratuitement et mettre, donc, à la radio, on fait passer des sensibilisations. Tout ça, ce sont les moyens financiers qu'on doit donner. Donc, on fait passer à la radio les...
Alors, il y a un auditeur qui a proposé, en tout cas, juste un bref plan de sortie en disant, dans le secteur, par exemple, de l'éducation, que les élèves reprennent les cours d'ici la fin du mois de juillet, et même ceux-là des universités. Et en ce qui concerne le lieu de travail, on ne peut pas avoir une masse de la population sur le lieu de travail, organiser des heures de manière un peu simultanée ou un peu alternative. Et en ce qui concerne le social dans le milieu social, les milieux sociaux de notre vie, les milieux naturels, en ce qui concerne les bistrots et les autres, il faudrait qu'on respecte aussi les heures d'ouverture. Est-ce que vous pensez aussi à ces brefs plans de sortie?
Oui, c'est bien, mais c'est comment accompagner ces mesures de sortie? Parce qu'on peut dire, mais au niveau local, au niveau de ville ou bien des quartiers, des villages, comment est-ce que les gens vont prendre les mesures? C'est une question aussi de les informer. Il y a peut-être une équipe là de sensibilisation qui peut passer dans les milieux, dans les coins, là où il y a la pandémie, là où il y a les cas. Donc on essaie un peu dans les quartiers, dans les agglomérations, là où il y a beaucoup de personnes. On peut bien faire ça. Mais le problème, c'est comment le faire. C'est ça le problème.
Est-ce que pensez-vous que l'état d'urgence, pour la cinquième fois d'ailleurs, avait déjà apporté quelque chose?
Oui, pour la cinquième fois, ça avait porté quelque chose de nouveau. Moi, j'espérais déjà reprendre mon boulot. J'étais très content. Je dis, bon, enfin. Mais quand on a prolongé pour la sixième fois, j'ai
vous avez dit que c'était trois.
Que font les experts en matière de contrôle sanitaire? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a vraiment des études là approfondies? Comment le virus se comporte? Comment il peut être freiné? Comment est-ce qu'on peut, le gouvernement peut appuyer? Parce que c'est le gouvernement qui doit appuyer l'équipe de réponse pour permettre à ce que donc le moyen soit aussi mis à la disposition de la population pour qu'ils prennent conscience que la maladie.
Mais parce que vous parlez de moyens, on a vu l'équipe des ripostes, le personnel qui a travaillé pratiquement pendant tout ce temps de confinement, notamment de la commune de la Gombe, et qui ont manifesté leur grogne en disant qu'ils ont été trois mois durant impayés. Alors on s'est dit, si déjà le personnel qui a travaillé et déplore cette fustige, ces comportements de la part des responsables, alors à combien faut-il penser encore que la population devait être soutenue, ou les ménages devaient être soutenus, et même les commerçants?
Bon, ouais, c'est là encore un problème. C'est la question de comment aménager donc le paiement de ces gens-là. Parce que vous pouvez pas croire que quelqu'un qui travaille et qui se retrouve moins payé, il va négliger les autres tâches, il va négliger sa mission. Ça sera compliqué même pour la sensibilisation.
Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir appelé de Lubumbashi. Merci beaucoup Jean-Claude. Alors on va prendre Jean Lycien qui est en Bandaka. Jean Lycien, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes.
Quelle est votre contribution Jean Lycien?
Merci messieurs les journalistes. Merci de m'avoir passé la parole. Ok, alors par rapport au sujet du jour, mon intervention normalement se ligue du côté de ceux qui sont contre cette façon d'agir de nos élites. Parce que, bon, normalement, les temps d'urgence sanitaire, c'est une affaire de tout Congolais. Ça concerne tout le monde. Parce que la santé doit normalement être protégée. Mais, selon la réalité du terrain, cas de chez nous ici à Mbandaka, l'attention normalement de la pandémie se baisse déjà. Et c'est comme ça dans l'autre province également. Alors, il faut noter que ce confinement, normalement, a déjà pointé du doigt à la vie socio-économique du peuple congolais. Et ça risque aussi de créer d'autres catastrophes, des maladies comme les cas d'autres maladies comme la malnutrition, etc.
Alors, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Jean Lycien. On va découvrir quelques messages postés sur notre page Facebook. Il y a Bruno Kichipa Matata. Il dit, la présidente de l'Assemblée nationale a bien raison. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 que préside M. Jean-Jacques Mouyembe, il exagère un tout petit peu. Il faudrait cependant qu'il soit sous pression pour une bonne prestation des services. Et notamment pour nous réclamons la reprise des cours au niveau du secondaire et à l'université. Jean-Billy Bila, d'emblée, je ne crédite pas cette énième prorogation de l'état d'urgence, d'autant plus que depuis son début en mars dernier, il n'y a aucun signal en termes de remèdes déjà trouvés par les chercheurs congolais en général et le médecin en particulier. Et aussi, faudrait-il souligner le fait que la population congolaise n'est pas totalement impliquée dans le respect strict des différentes mesures barrières. Christian et Zébré, c'est bien de prolonger l'état d'urgence, mais il faudra aussi penser aux conditions dans lesquelles ces derniers plongent la population dans son mode de vie. Selon moi, c'est bien de mourir à cause d'une maladie qu'à cause de la famine. André Uriel Akoulaï, la politique actuellement en RDC est au rabais et ce qui se passe aujourd'hui au Congo n'a pas de nom car nous voyons actuellement tous les parlementaires, aucun n'a de maturité dans n'importe quelle chambre. Alors c'est que Mabunda et son équipe poursuivent, c'est leur intérêt égoïste. L'état d'urgence doit être prolongé jusque même au mois de septembre. Marcel Bimouini, depuis la ville de Kananga au Kasaï central, vu la vie actuelle que nous, aux Congolais, passons maintenant, l'état d'urgence ne sert à rien. Vous imaginez les allumettes qu'on achetait 3 boîtes à 100 francs. Aujourd'hui, une boîte revient à 1000 francs. chose grave. J'aimerais qu'on finisse avec cet état d'urgence. Alors, on retrouve notre invité, Maître Donatien Okoko. Dans ses messages, on sent qu'il y a vraiment la population qui en a ras-le-bol.
Oui, il y a la population qui en a marre parce que lorsque les gens ne travaillent plus et que l'économie ne fonctionne pas, avec comme conséquence la dévaluation de la monnaie et la vie devient plus chère qu'avant, c'est normal que les gens réagissent de cette façon-là. Mais le problème ici, c'est un problème d'option. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons laisser la maladie ou la pandémie s'est développée à une vitesse incroyable ou que nous fassions encore des sacrifices pour tenter de freiner le développement de la pandémie. C'est une option à lever. Moi, je comprends la réaction de la population. Moi, je vis avec la population, je comprends, je vois comment les gens sont en train de vivre. Mais ici, qu'est-ce que nous voulons? Parce que, imaginez, si on met fin à cet état d'urgence, c'est ça que je vous avais déjà dit. Mm-hmm. Si on met fin à l'état d'urgence, donc que les gens retrouvent leur liberté, moi je crois que la situation va être plus qu'avant. Et en ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que même les quelques hôpitaux qui nous aident encore ne sauront plus tenir. Et en ce moment-là, qu'est-ce que cela va nous amener par la suite? Voilà un peu ma crainte et mon inquiétude pour qu'on continue à pouvoir garder l'état d'urgence parce que ça permet encore de ralentir la propagation de la pandémie. Que de lever cet état d'urgence-là et que la pandémie va se propager à une vitesse incroyable, ça ne va pas épargner quelqu'un. Donc nous tous, nous serons vulnérables devant la situation qui pourrait arriver.
Alors, pensez-vous comment le gouvernement peut gérer les conséquences de cette prolongation successive de l'état d'urgence sur le plan social, sur le plan politique? Parce qu'il y a quand même des conséquences à gérer.
La situation que le gouvernement doit faire, c'est de chercher d'abord sur le plan économique. Parce que si l'économie ne marche pas, le gouvernement ne va rien faire. Il faut trouver, par exemple, nous avons des industries. Comment faire fonctionner ces industries pendant la période d'état d'urgence? Comment faire fonctionner les entreprises pendant cet état de l'état d'urgence? Donc, c'est ça les solutions économiques vont. Une fois que l'on aura trouvé des solutions économiques, le reste ne sera que suivre comme par voie de roulette. Donc ça va être facile. Mais si l'économie ne marche pas, je ne vois pas comment, sur le plan politique, sur le plan social, comment le gouvernement va trouver une solution. Ça va être beaucoup plus compliqué.
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous évoquez le secteur de l'économie, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus maintenant la spéculation au niveau des commerçants.
Bon, il y a spéculation, parce que c'est normal, parce qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Dès lors qu'il y a l'offre, la demande qui augmente, comprenez que ceux qui ont quelque chose là, ils ne pourront que faire de la spéculation. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait ça. Et même ce que nous connaissons aujourd'hui, la montée de taux de change, c'est parce que aujourd'hui, étant donné que l'économie est au rabais et qu'on a moins de dollars, c'est normal que le taux augmente. Mais ce n'est pas une question de mauvaise gestion comme j'entends les gens dire que c'est la mauvaise gestion qui a fait qu'il y ait une dévaluation de notre monnaie. Mais c'est parce que la devise est rare et le franc congolais se trouve en de grandes quantités. C'est comme ça que nous connaissons cette situation-là. C'est pourquoi moi je propose que le gouvernement doit mettre toute son intelligence pour trouver la solution d'abord au niveau économique. Comment faire fonctionner les entreprises pendant cette période? Comment faire fonctionner les industries, les usines pendant cette période? Donc, quand on aura trouvé ces solutions-là, le reste va être plus facile à trouver que de voir sur le plan politique. Et sur le plan politique, il n'y aura rien qui aura comme solution salvatrice dans ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui.
Voilà. Alors, il y a un auditeur, Joseph Kalambaï, qui dit vouloir un plan de sortie de l'état d'urgence est une bonne chose, mais forcer la fin de l'état d'urgence n'est pas, à mon humble avis, une bonne décision, car il faut, en tout état de choses, voir la courbe de la maladie. C'est Joseph Kalambaï. Et il y a un autre qui insiste en disant que même dans les pays et qui étaient touchés avant par la maladie, ils ont pu déconfiner, et parce qu'ils savent, maintenant, ils vont désormais vivre avec la maladie. Pourquoi ne pas les faire aussi chez nous? Ça permettrait aux gens de reprendre leur vie normalement, mais tout en changeant aussi leur comportement.
Oui, c'est-à-dire quoi, Gérard? Moi, je suis d'accord avec eux lorsqu'ils disent qu'il faut qu'on vive avec la maladie. Mais pour vivre avec la maladie, il faut être discipliné. C'est ça le grand problème entre nous et les autres. Vous allez voir que même dans les pays de l'Europe, partout où on trouve que la population n'est pas disciplinée, cette maladie-là a pris de l'ampleur. Mais là où les gens étaient réceptifs aux instructions du pouvoir en place, la maladie n'a pas tellement évolué. C'est ainsi que moi je me dis, si aujourd'hui on va dire non, compte tenu des paramètres économiques ou macroéconomiques, on ne peut plus continuer avec l'état d'urgence. C'est bien. Mais maintenant, comment vous allez faire pour que les gens puissent être responsables pour continuer à vivre comme si nous étions dans l'état d'urgence? Par exemple, le port des masques. Par exemple, la distanciation entre les individus. Par exemple, la non-salutation main en main, par exemple. Comment nous allons vivre ça? Parce que notre pays ici, c'est un pays où tout le monde fait la loi, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça la difficulté. Mais lorsque le Parlement ne veut pas prendre la responsabilité, ou disons l'Assemblée nationale, parce que je vous ai dit que la Constitution donne à l'Assemblée nationale, au Parlement et au Sénat, le pouvoir de mettre fin à l'état d'urgence par une loi. Ils ne doivent pas faire du chantage. Non, si on ne fait pas, c'est la dernière fois. Non. Lorsqu'ils estiment que non, nous en avons marre, ils n'ont rien à demander, à refuser la prorogation, ils peuvent décider par eux-mêmes, de prendre une loi.
Il y a aussi quelque chose qui...
C'est constitutionnel.
Voilà, il y a cette défaillance dans la gestion qui est observée et évoquée par certains auditeurs dans la gestion de cette maladie Covid-19. Lorsqu'on remarque qu'il y a de moins en moins de points de dépistage pour que les gens aillent se faire tester à la Covid-19, il y a également le problème de distribution de masques. Parce qu'on n'a pas senti le gouvernement mettre réellement des moyens pour disponibiliser, distribuer gratuitement des masques. Et ce sont quelques individus, quelques ONG qui les font en leur manière, bon, peut-être avec des moyens qu'ils ont obtenus, des partenaires, on ne sait pas comment, mais on n'a pas senti également la facilitation de la du gouvernement pour que finalement tout le monde puisse participer de manière efficace dans la lutte contre la maladie.
Oui, vous avez raison, Gilles, vous avez raison, parce que, mais d'une part, il faut comprendre aussi dans la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Le gouvernement a toujours dit qu'on n'a pas de moyens. Par exemple, si vous dites que on puisse être dépisté...
Oui, mais des moyens, 27 millions sortis...
Si on se permet de...
Oui, maître Coco, le budget proposé par l'équipe de Riposte nageait autour de 30 millions de dollars. Et le gouvernement a confirmé qu'il avait sorti 10 millions, et Mouyembe, le docteur, parle plutôt de 1 million qu'il avait réceptionné.
C'est ça que j'ai dit, qu'il y a un problème, parce que... C'est pourquoi j'ai entendu qu'il paraît qu'il y a un député qui a proposé une question orale avec le débat au ministre de la Santé. Parce qu'il y a un problème chez nous avec l'argent. Donc quand on vous donne l'argent de l'État, on veut toujours chercher à grignoter sur la somme, et que le travail pour lequel cet argent était destiné est laissé de côté. Mais c'est anormal. Imaginez que la vie des gens, et vous prenez des mesures graves, des restrictions de liberté. Vous demandez de l'argent. On vous donne l'argent, mais vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé. C'est que cet argent-là a été le motif pour lequel cet argent-là a été décaissé. Mais c'est très grave. Ça, nous ne pouvons pas encourager. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est Mouyembe qui gère la pandémie. Et Mouyembe vous dit
qu'il n'a reçu qu'un million.
Faire un dépistage volontaire. Parce que sinon,
ils risquent de se trouver au dépourvu par manque d'intrants. C'est pourquoi on fait des tests que des gens qui sont déjà, qui éprouvent certaines complications, et en ce moment-là, on fait. Mais si on demande à tout le monde d'aller se dépister, il y aura des intrants qui vont manquer. Et en ce moment-là, ça va encore être beaucoup plus compliqué. Mais il faut condamner. S'il est vrai que le gouvernement a débloqué l'argent budgétisé pour la lutte contre la pandémie et que la gestion n'a pas été transparente, il y a à condamner et que même le président de la République doit demander des comptes à ces gens-là. Parce que sinon, ça ne va pas être une bonne chose.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Coco. Nous vous gardons en ligne. Il est temps de rouvrir les standards à nouveau pour accueillir d'autres auditeurs. Et là, qui insiste d'ailleurs sur cette question, le fait qu'il y ait ce manque de points de dépistage, et également la question de la distribution des masques qui pose problème, et la sensibilisation qui ne suit pas. Alors, donc, ça ne sert à rien de prolonger pour la sixième fois l'état d'urgence, parce que finalement, on fait du surplace, on tourne à rond. Lucien, vous êtes en Bandaka, Edmond en Bandaka également. Vous nous avez rejoint. Lucien, vous êtes avec nous? Lucien, vous êtes avec nous, Lucien?
Ouais.
Voilà, on prend plutôt Edmond. Edmond, vous êtes en Bandaka, bonjour. Voilà, j'ai quoi, là, des petits soucis avec... Lucien, vous êtes avec nous? Allô, Lucien? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Lucien. Le temps de découvrir également d'autres messages. Jean-Pierre Diony, les polyclotes, c'est depuis la province du Kassai central. Selon moi, la prolongation, bien qu'elle ait une mesure salutaire, mais elle ne constitue pas toujours une sécurité contre la Covid, parce que le gouvernement ne se prend pas correctement. Namouchiboué et Saïdi, la pandémie est là, mais nous devons vivre avec ça, comme d'autres maladies. Depuis qu'il y a eu état d'urgence, il n'y a pas de changement. Quand voit la maladie augmenter et ne baisse pas, et pourtant l'état d'urgence, le gouvernement devait faire des efforts pour que nous sentions les changements. Daniel Usongo, c'est mieux qu'on nous laisse vivre avec cette pandémie au lieu de nous distraire avec les confinements. On va écouter Simon Zilulu qui est à Matadi. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Ouais, bonjour J.R. Lungembo, bonjour également à tous les auditeurs de Radio Capi. C'est Simon Kalou Kandaluiza, c'est pas Simon Silou, hein.
Voilà, Simon, vous êtes à Luisa. Vous avez la parole.
Oui, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Je salue d'abord la thématique du jour, hein. Mais je voudrais moi intervenir dans ce sujet en relativisant un peu la chose via l'état d'urgence actuel de la COVID-19. Bon, en fait, nous devons quand même retenir que, vu l'évolution de la riposte, hein, on constate quand même qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de guéris par rapport aux jours précédents, où on remarquait 2-3 guéris, mais actuellement, on en compte une centaine par jour. Donc là, moi, j'ai toujours dit que ce sont des retombées, des confinements et de l'état d'urgence, parce que les gens se sont au moins disciplinés, il n'y a pas assez de sorties, ce qui permet au moins à l'équipe de riposte de pouvoir bien identifier les personnes malades. Donc, si ce côté-là, il y a un peu de l'évolution, s'il faut saluer quand même l'état d'urgence sanitaire. Mais d'un autre côté, où nous ne devons pas saluer, où nous contestons jusqu'à présent, c'est parce que l'état d'urgence semble profiter à un groupe d'individus. Par exemple, les commerçants aujourd'hui profitent de l'état d'urgence pour hausser le prix des biens sur le marché. Donc, ils en profitent, ils se font de l'argent. Et pourtant, nous, population, nous sommes en train de souffrir. Hein. Si peut-être le gouvernement, d'abord, ce qui nous inquiète, c'est que nous irons des prolongations, jusqu'à quand? Le gouvernement ne se prononce pas. C'est ce qui nous inquiète. Aujourd'hui, les élèves ne savent plus reprendre les cours. L'incertitude règne. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Moi, je suis ici à Luisa, je vous dis, bon, si vous voyez même la façon dont les activités tournent, c'est au ralenti, les gens s'inquiètent. Vous êtes en route avec des marchandises pour amener à Kananga. Vous trouvez des barrières et conseils. Pourtant, nous vivons dans un état d'urgence sanitaire. Donc, le gouvernement doit vraiment prendre des mesures. Nous devons être informés. Les étudiants aujourd'hui se plaignent. Ils doivent connaître quand est-ce que les activités vont reprendre. C'est ce qui inquiète. Donc, le gouvernement doit à tout prix se prononcer. Sinon, nous irons de prolongation. Jusqu'à quand? Si ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat, s'en profitent parce qu'ils sont par exemple en ville là-bas, ils ne sentent peut-être pas des conséquences de ces, de cet état de prolongation. Mais nous, nous qui sommes au village ici, nous sentons, nous souffrons. Donc ils doivent tenir compte de ces conséquences-là. L'état d'urgence, bien sûr, nous avons de bons résultats, mais nous devons être fixés sur la date de fin de l'état d'urgence. Parce que dans d'autres pays, ils se sont déjà habitués à vivre avec la COVID-19. Nous aussi, nous devons nous habituer à vivre avec la COVID-19. Nous devons être fixés sur la fin de l'état d'urgence. JR, voilà un pays d'intervention que moi j'avais à vous donner. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Simon, je comprends pour vous que, comme l'ont souhaité d'ailleurs certains députés, un plan de sortie clair, si jamais il est présenté, ça pourrait apaiser les esprits. Je crois que c'est dans le même esprit que Chico nous a écrit d'ailleurs depuis Kinshasa. Je suis de ceux-là qui ne veulent plus la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, mais contre ceux-là qui ne respectent pas les mesures des gestes et barrières, car depuis que l'État a donné ces mesures lui-même, est incapable de les contrôler dans les ports, dans les parkings, pour ne pas citer ceux qui voyagent dans les cargos et même d'autres moyens de déplacement. On ne sait pas. J'ai mon frère qui habite le Kassai, mais qui se retrouve à Kinshasa depuis avant-hier. Par quel miracle s'est retrouvé dans la capitale? On ne sait jamais. Il y a également Munganga John. À mon avis, cette prolongation ne trouve plus sa raison d'être, étant donné que l'équipe de la Riposte et surtout le ministère de la Santé, les ministres de la Santé nous font attendre des informations qui restent à déplorer pendant que le petit peuple souffre. La levée de l'état d'urgence s'avère importante et la réouverture des activités pour sauver notre économie. Alors, on va prendre Edmond qui est en Bandaka. Edmond, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Quelle est votre contribution, Edmond?
Merci beaucoup, Monsieur Gère. Ma contribution s'inscrit dans le sens que, pour moi, en ce qui concerne l'état d'urgence, dans un premier temps, en tout cas, j'explique cette faute aux membres du Parlement, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs, parce que chaque fois qu'ils prolongeaient l'état d'urgence, ils devraient quand même assoupir ou ordonner au président de la République d'alléger certaines mesures d'allègement. Donc l'économie a été déchirée et nous vivons dans une calamité terrible que les députés et les sénateurs ne comprennent pas. Ils ont prolongé, ils ont soutenu que c'est la dernière fois ou la dernière prolongation. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais nous craignons, comme moi là, je crains que à la fin de cette prolongation, que le même problème ne revienne, parce que le président de la République peut encore solliciter. La Cour constitutionnelle est là, et chaque fois on fait recours à la Cour constitutionnelle pour valider certaines ordonnances qu'on sort. Donc pour moi, en tout cas, la démarche c'est que la présidente Jeanine Mabunda a entamé, c'est une bonne démarche, mais que les députés et les sénateurs se mettent à la place de la population. Nous souffrons, les écoles sont fermées, les universités, les institutions publiques et privées fermées.
Oui, Edmond, et tout Edmond.
Les salaires ne touchent plus.
Oui, Edmond.
C'est terrible et que le député doit quand même songer à ça.
Oui, Edmond. Donc, si je comprends bien, ouais. vous rejoignez, la proposition tout à l'heure de notre invité, qui demandait d'ailleurs que ce plan de sortie puisse, que être proposé par les députés et même le fait d'avoir accepté. Personne ne nous oblige de toujours continuer à prolonger l'état d'urgence, mais ils pouvaient néanmoins aussi proposer, en acceptant de prolonger l'état d'urgence, mais aussi un plan de sortie au gouvernement.
Oui, tout à fait. Donc l'invité a raison également, nous abonnons dans le même sens. Et également pour le gouvernement. Le gouvernement est libre, en dépit de la loi qui prolonge l'état d'urgence de l'Assemblée, le gouvernement est libre de prendre, même aujourd'hui, le gouvernement peut prendre des mesures d'encadrement ou des mesures qui peuvent permettre à la population ainsi qu'à l'économie de bien avancer, que les gens puissent vivre impeccablement. Dans certains pays, ça se fait comme ça. Il faut attendre la fin de l'état d'urgence. Pendant que la population est en train de souffrir. Est-ce que ces gens-là, est-ce que vraiment, ils sont là, ils ont été envoyés par la population, ou ils sont là juste pour leurs propres intérêts?
Merci beaucoup Edmond d'avoir appelé de Mbandaka. Sylvain, vous êtes à Bounia, vous nous avez rejoint, merci. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Sylvain.
Merci, JR, je vous salue et je salue tous les Congolais.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Oui. En fait, Monsieur Gère, je crois que c'est avec moi que nous avions lancé ce débat
sur la question de l'apparition de COVID en RDC. Si je me souviens bien, à cette première émission, j'avais déjà dit que l'apparition de cette pandémie devait révolutionner les domaines de la gouvernance sanitaire en République démocratique du Congo. Je reviens là-dessus pourquoi? Puisque à l'époque, lorsque j'ai parlé, il y a eu des gens qui m'ont contredit. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord, vous avez suivi la position de l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît que nous allons vivre avec cette pandémie et tant d'autres. Ce qui oblige nécessairement que, au niveau de la gouvernance de la cité, que les acteurs ou les dirigeants de ce domaine-là puissent s'approprier des outils capables à pouvoir gouverner cette problématique. Nous avons vu malheureusement, excusez-moi, puisque ça c'est ma position, nous avons essayé de dramatiser cette histoire de COVID-19. Je ne suis pas d'accord avec ces gens, moi je suis un panafricaniste. L'homme va toujours traverser des difficultés. COVID-19, c'est une pandémie qui est liée aux hommes. Il faut que le secteur de la santé puisse avoir des hommes et des femmes, des structures de nature à pouvoir anticiper certaines choses, si pas gouverner ce qui apparaît comme problème aux hommes. Puisque ne vous inquiétez pas, lorsque nous avons vu l'apparition du VIH-Sida, c'était pratiquement de la catastrophe. Lorsqu'on nous a parlé dernièrement du cas d'Ebola, c'était de la catastrophe. Mais qui vous dit que, aussi longtemps que nous sommes sur la Terre, nous aurons des cas pareils? Le problème aujourd'hui dans les pays africains, c'est moi, je dis à Massima, c'est que des hommes et des femmes ne veulent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque vous lisez tous les signes ou les symptômes de cette pandémie de COVID-19, il me semble que déjà, à travers les endémies ou les pandémies que nous avons déjà connues dans ces pays ou même dans ces côtés, même si ce n'est pas universel, ce sont des répétitions de certaines maladies que nous connaissons déjà. Mais pourquoi ça devait faire autant de problèmes?
Alors, vous proposez quoi concrètement? Vous proposez quoi concrètement? Que ce soit la dernière, prolongation?
Mon problème est à ce niveau précis. Je ne souhaite pas personnellement chaque fois des prolongations de l'état d'urgence. Non. Le Congo doit continuer, la vie doit continuer.
Merci.
Il faut mettre en place un plan opérationnel qui doit tout simplement s'occuper de la gouvernance quotidienne de cette pandémie puisque nous devons faire avec.
Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on va prendre Christian à Kinshasa. Christian, rapidement, vous allez placer un mot.
Oui, bonjour. Moi, je vous dirais qu'ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement l'état d'urgence, mais c'est la vie après cet état d'urgence. Donc voilà pourquoi, c'est vrai, déjà les secteurs d'activité ont été ciblés pour mener à bien ces combats, notamment l'agriculture, le pêche et l'élevage. Mais ce qui pose problème, c'est beaucoup plus des hommes, des personnes qui sont capables de traduire en acte ces projets. Et donc, moi, je proposerais à ce que nous puissions faire recours au génie militaire. Parce que de nos jours, ces gens ont fait déjà leur preuve. Vous êtes sans savoir que dans les communes d'Engaliema, ils sont en train d'asphalter une route, ils jettent des pompes, et il y a, sur le plan de l'agriculture, il y a le général Kassongo Kabui qui fait quand même quelque chose là-bas. Donc il faut beaucoup plus travailler avec ces gens, parce que là, nous supposons que nous pouvons avoir des résultats beaucoup plus bancables par rapport à d'autres secteurs. Les projets sont joués. Vous êtes sans savoir que c'est vient encore de nous démontrer que d'autres services aujourd'hui ou d'autres directions n'ont pas pu être à l'auteur. Le projet 5 chantiers, révolution de la modernité, donc il y a eu autant de détournements. Donc les acteurs ont posé problème. Alors ici, il faut changer des acteurs qui, dans un match de football, nous pouvons les appeler comme étant des joueurs. Il faut changer des joueurs, beaucoup donner confiance au génie militaire, et comme ça, nous pouvons voir qu'est-ce que ça pourra donner. Et si ça marche, nous pouvons désormais commencer à travailler avec eux, et d'autres directions viendront tout simplement en appui.
Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. On va terminer avec vous, Maître Donatien Okoko. Juste un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut prolonger autant de fois, mais il faudrait qu'il y ait un plan de sortie. Soit ça peut être proposé par les parlementaires eux-mêmes, ou soit par le gouvernement.
Oui, Gère, je suis d'avis que je sais que la situation est trop difficile, mais mettre le gouvernement devant un fait accompli qu'il faut trouver un plan de sortie. Peut-être que le gouvernement est en train d'étudier et que 15 jours, ce n'est pas très loin. Je crois que ce n'est pas bien. Il faudrait que toutes les intelligences du Congo se mettent ensemble pour que chacun, ce qui le concerne, puisse faire une proposition au gouvernement pour voir comment faire sortir le pays dans cette situation dont l'économie, notre économie est en train de souffrir énormément pour que la population puisse retrouver comment vivre. Donc on ne saura pas sacrifier l'économie et faire mourir la population. Donc c'est un peu ça.
Merci beaucoup.
Un plan de sortie, mais un plan de sortie qui soit acceptable, pas un plan de sortie pour un plan de sortie.
Merci beaucoup, Maître Donatien Okoko. Nous rappelons que vous êtes à la liste politique d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, Maître.
Merci beaucoup, Gilles.
Voilà, on se quitte par ici. Merci à Polydor Basunga et à Pierrot et Lameji et qui ont, produit ensemble avec nous cette émission. Gilles Lungembolabung Andji était à la présentation et à la coordination de ces programmes. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. À très bientôt.